Voici le journal de Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Eric, bonjour à tous et bon week-end de la Toussaint également. Faites attention toutefois sur les routes, les contrôles de police sont renforcés. Nous suivons une brigade spécialisée dans quelques instants. Le sommet du G20 à Rome aujourd'hui. Climat et relance économique à l'ordre du jour. Le monde n'est pas sorti de la crise. Exemple avec le Brésil dans ce journal. Et puis à suivre aussi, les députés écologistes veulent entendre Total sur son éco-responsabilité et l'adaptation au théâtre du chef-d'œuvre de Dostoïevski, les frères Karamazov. Amélie Perrier l'a vu pour nous.
Les invités de la matinale. Dans 20 minutes, Karine, vous recevrez
l'historienne Annie Cohen-Solal pour l'exposition Picasso, l'étranger, à découvrir à partir de la semaine prochaine au Musée de l'Histoire de l'Immigration à Paris.
Et à partir de 8h20, on va s'intéresser au Moyen-Âge, la nouvelle histoire du Moyen-Âge. Le médiéviste Florian Mazel a supervisé cet épais volume publié aux éditions du Seuil.
France Inter.
Et donc en ce week-end de la Toussaint, Raphaël, les contrôles sont renforcés sur les routes.
La circulation est fluide aujourd'hui dans toute la France, mais ça n'est pas pour autant qu'il faut appuyer sur le champignon. La police est là et parfois on ne la voit pas car elle utilise des voitures banalisées. Cédric Lieto a suivi une brigade de la CRS autoroutière en intervention sur la A31 en Lorraine.
Les deux policiers circulent à bord d'une voiture blanche, une position privilégiée au cœur du trafic pour traquer les mauvais gestes, selon le major Fabrice.
Un véhicule qui arrive assez vite, en présence d'un véhicule sérigraphié, va ralentir. Avec le véhicule banalisé, il va continuer son comportement. Et on peut également suivre, par exemple, également le contrevenant et constater plusieurs infractions.
Au bout de quelques minutes, la voiture est dépassée par un véhicule qui roule trop vite et colle les autres automobilistes sur la voie de gauche.
Et là, il réaccélère.
Il va réaccélérer.
Et bon, il est à 140. 90.
Il est décidé de l'intercepter.
Nous vous contrôlons, monsieur, on vous suivait, vous étiez en vitesse excessive.
Oui,
et vous n'avez pas respecté la distance de sécurité.
Nicolas s'en sort bien, comme il n'y a pas de radar dans le véhicule, ce sera une amende pour vitesse excessive, pas de retrait de points. Avec un radar, son permis aurait été suspendu. Un automobiliste qui dit faire attention.
Je regarde mes angles morts, je regarde mes rétros. Maintenant, je roule effectivement à 10-20 km/h au-dessus. Voilà, ok. C'est pas légal, mais je trouve pas que ce soit particulièrement dangereux en faisant vraiment gaffe à ces rétros, à tout.
Une opinion qui aura du mal à convaincre. En Meurthe-et-Moselle, la vitesse est en jeu dans la moitié des accidents mortels survenus depuis le début de l'année.
Cédric Lieto, France Bleu, Lorraine Nord. Et si vous êtes sur les routes du Sud, vigilance. 4 départements sont désormais en vigilance orange. Le Var rejoint l'Ardèche, la Lozère et le Gard. La région est concernée tout le week-end par un épisode cévenol, des fortes pluies tout le week-end. Après la petite éclaircie dans les relations franco-américaines hier, Emmanuel Macron doit maintenant désamorcer une autre crise, celle des accords de pêche avec la Grande-Bretagne. Il doit discuter avec le Premier ministre britannique Boris Johnson durant le week-end à Rome en marge du G20. Pour le président français qui s'exprime dans le Financial Times, il en va de la crédibilité du Royaume-Uni.
Le G20, c'est donc aujourd'hui et jusqu'à demain à Rome.
Les grandes économies mondiales ont beaucoup de choses à évoquer, la relance en particulier. Si elle semble enclenchée dans plusieurs pays, d'autres en sont loin, y compris des membres du G20, le Brésil notamment, englué dans une inflation de plus de 10% et une dévaluation de sa monnaie. Se nourrir y coûte cher, les prix de l'alimentation flambent et comme bien souvent, cela pourrait avoir des répercussions politiques importantes. À Rio, les précisions d'Anne Vignia.
C'est une menace que le gouvernement brésilien prend très au sérieux. Les camionneurs devraient bloquer les principales routes du pays à partir de ce lundi 1er novembre. La catégorie se dit trahie par le président Bolsonaro qui avait promis de faire baisser les prix à la pompe. Or, l'essence n'a fait qu'augmenter depuis un an. Les principaux syndicats appuient désormais les routiers dans cette grève pour protester eux aussi contre l'envolée des prix qui pèse sur les ménages. Selon une récente étude, 6 Brésiliens sur 10 n'ont pas de quoi manger tous les jours. Le Brésil affiche pourtant une balance commerciale en hausse avec des exportations records de produits agricoles, notamment du soja. Mais ce bon résultat ne fait qu'augmenter en réalité la pauvreté des Brésiliens. Les surfaces agricoles dédiées à l'alimentation de la population ont été divisées par 4 en quelques années, remplacées par des cultures d'exportation, augmentant sensiblement les prix du riz, des haricots ou du manioc. Rio de Janeiro, Anvilla, France Inter.
Et au G20, il sera également question du climat. La veille de la COP26 de Glasgow, la COP26 en Écosse doit voir les pays participants s'engager concrètement dans la réduction des émissions de CO2. À la veille de la conférence, les groupes pétroliers sont dans le viseur. Cette semaine, le Congrès des États-Unis a auditionné des groupes comme BP ou Shell, parfois accusés d'avoir joué un rôle dans le réchauffement de la planète. En France, c'est Total qui est montré du doigt par une étude. Total savait dès les années 70 les conséquences néfastes de son activité sur le climat, mais n'a rien dit. Les députés écologistes veulent donc faire comme aux États-Unis. Maxence Lambrecq, ils ont déposé une demande de commission d'enquête à l'Assemblée nationale.
C'est l'ancienne ministre de l'écologie Delphine Batho qui est à la manœuvre. Elle tient à diriger cette commission d'enquête pour révéler l'attitude de Total et de l'État. Les deux restant à ses yeux profondément liés.
Cette influence de Total dans l'appareil d'État, elle va bien au-delà malheureusement de la période où c'était une entreprise publique. Elle s'est poursuivie bien après la privatisation et elle continue aujourd'hui, en particulier en Ouganda, avec l'exploitation de 400 puits de forage pétrolier, dont 100 dans un parc national, la construction d'un pipeline qui va entraîner la destruction de zones humides, le fait de déplacer des milliers d'habitants. Et tout ça est fait avec un soutien très actif de la diplomatie française.
À quel point la France est liée aux géants pétroliers ? La question se pose, admet le député En Marche Jean-Charles Colas-Roy, mais l'urgence est ailleurs.
Les entreprises, peut-être, auraient pu influer sur l'appareil d'État, faire du lobbying interdit. Effectivement, il y a peut-être des choses à regarder, mais encore une fois, on est dans cette tradition des écologistes radicaux qui cherchent des coupables, alors que moi, je me situe plus aujourd'hui dans l'action, plutôt que d'essayer de faire des procès sur le passé. Ça, je le laisse aux écologistes radicaux.
La majorité ne va donc pas soutenir cette demande de commission d'enquête. Elle ne pourra pas voir le jour avant la fin du quinquennat.
Maxence Lambrecq, la vaccination contre le coronavirus progresse encore en France. Désormais, 50 millions de personnes ont reçu leurs deux doses. Aux États-Unis, feu vert à la vaccination des enfants. Le Pfizer est autorisé par la FDA, l'autorité fédérale pour les médicaments, pour les enfants de 5 à 11 ans. En Colombie également, la campagne va être élargie, mais avec le sérum chinois Sinovac autorisé dès 3 ans.
Pas de poursuite finalement dans l'affaire Zineb Redouane.
Rappelez-vous, cette femme tuée à Marseille en 2018, tuée par un jet de grenade lacrymogène de CRS en pleine manifestation de gilets jaunes. D'après un livre publié cette semaine, IGPN, au-delà de tout soupçon, le tireur a été identifié, mais ne sera pas sanctionné. Emmanuel Leclerc, vous confirmez ces informations. Le patron de la police nationale classe l'affaire sans suite.
Dans son rapport, la directrice de l'IGPN, Brigitte Julien, estime, selon nos informations, que le tir de grenade qu'a percuté Zineb Redouane en plein visage alors qu'elle allait fermer ses volets était certes réglementaire, mais risqué. Une action manifestement inadaptée que les deux CRS, l'auteur du tir et son superviseur à ses côtés, ont manqué de discernement. Et la chef de l'IGPN de conclure en recommandant le renvoi des deux CRS devant un conseil de discipline. Un avis que le directeur général de la police a décidé de ne pas suivre, en désaccord total visiblement. Toujours selon nos informations, Frédéric Vaux estime au contraire qu'il n'y a pas eu de faute professionnelle ce soir-là à Marseille. 1er décembre 2018, acte 3 des Gilets jaunes. Dans une tension extrême, le bruit, la fumée, la nuit tombante, c'est bien ça qui aurait selon lui provoqué le manque de discernement. Aucune sanction retenue donc, juste un stage de formation obligatoire. Dans tous les cas, le rapport administratif de l'IGPN a été transmis récemment malgré tout au juge lyonnais en charge du dossier judiciaire.
Emmanuel Leclerc, rendez-vous pour plus d'informations sur notre site franceinter.fr. C'est l'adaptation qu'on pensait impossible des frères Karamazov au théâtre. Le chef-d'œuvre de Fédor Dostoïevski joué au théâtre de l'Odéon à Paris jusqu'au 13 novembre prochain. Amélie Perrier, vous avez vécu 3h15 palpitant avec cette mise en scène signée Sylvain Creusevaux.
Un défi tant le roman est tentaculaire. L'histoire, c'est un horrible père furieux et alcoolique et ses fils, les frères Karamazov, partagés entre envie de meurtre, débauche ou refuge dans la religion. Un travail d'adaptation que le metteur en scène Sylvain Creusevaux met au point avec les comédiens.
C'est plein d'histoires. Il y a une intrigue principale, mais il y a des intrigues secondaires et même tertiaires, et dont des petits événements rejoignent au fur et à mesure l'intrigue principale. Donc on fait des choix et après On adapte en travaillant, on adapte au plateau, on adapte pendant les répétitions. C'est pas, je fais pas une adaptation avec des textes, puis après je leur donne et puis on lit. Donc c'est au fur et à mesure des répétitions.
Tu vas pas partir, toi ?
Putain, t'es tellement belle.
Et l'on ne décroche jamais pendant les plus de 3 heures de la pièce. Un récit haletant servi par des interprètes habités dans des décors électriques, avec des échos à nos sociétés contemporaines filmées en permanence au téléphone portable.
Allez debout ! Allez, lève-toi !
Avec des questions intemporelles surtout, sur la cruauté, la vengeance, la soumission.
Disons que ces deux forces entre l'homme de libre arbitre et l'homme créature, quoi, obéissante, cette dynamique-là, c'est ça toujours qui fait écho pour moi aujourd'hui.
Un collage placardé au mur scande « Si Dieu est mort, tout est permis », permise la liberté comme la folie qui rendent cette adaptation magistrale.
Voilà, les frères Karamazov au théâtre. Ce sera joué également à Brive, Montpellier, Strasbourg, Annecy et La Rochelle.
3h15, hein, vous avez dit, il faut prendre ses précautions avant. C'était le journal de Raphaël Delvolvé.
Oh, ça va quand même.
Le temps de ce samedi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Parce que votre activité n'attend pas. Les services en ligne Euromaster sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et
Jean-Michel Gonaski, on fait un point sur les fortes précipitations sur le quart sud-est de la France.
Effectivement, avec le Gard, la Lozère, l'Ardèche et le Var, placés en vigilance orange, forte pluie inondation, également pour un risque de crue sur l'Ardèche et le Gard. Les pluies cévenoles vont rester fortes avant de s'estomper ce soir en se décalant vers les Alpes et la Corse. Sur le département du Var, en particulier sur le proche littoral, des précipitations orageuses intenses sont prévues entre la matinée et la nuit prochaine. Elles vont donner de forts volumes de pluie en quelques heures. Des pluies, il en sera également question sur le reste du pays où une perturbation circule d'ouest en est. En journée, une large façade atlantique va tout de même retrouver une certaine amélioration, mais la prochaine perturbation océane est déjà attendue sur les côtes dès la nuit prochaine.
Jean-Michel Gonaski, Météo France.